Hébreux, chapitre 1er. Prêcher au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, le 21 août 1957, un mercredi soir. Pour donner un petit, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour moi que juste la parole. La foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend la parole de Dieu. Le mercredi, puis peut-être le dimanche, l'un des services du dimanche, donnant au pasteur juste un petit repos qu'il mérite vraiment, j'ai pensé que nous prendrions peut-être juste un livre dans la Bible. Nous avons agi ainsi autrefois. Quelquefois, nous sommes restés une année entière sur un seul livre. Je me souviens une fois que nous restâmes une bonne année sur le livre de l'Apocalypse. Mais, oh, les choses que nous avons apprises, et combien merveilleux c'était. Puis nous pourrions revenir et prendre le livre de Daniel, ou le livre de la Genèse, ou l'Exode, et le prendre juste chapitre par chapitre, et cela lire la Bible entière ensemble. Oh, j'aime cela. Un peu plus tard, nous aurons à obtenir le « Si le Seigneur continue de bénir et que nous continuions notre route, nous entrerons ici dans quelques authentiques et profondes choses, authentiques et profondes, et nous irons d'endroit en endroit à travers l'Écriture avec cela. » Et j'aime comparer l'Écriture avec l'Écriture. C'est la façon que cela doit être. C'est juste une grande et magnifique image. Et dans ce livre que nous étudions, nous allons rentrer dans, oh, le salut et la guérison divine et les miracles et grâce et, oh, chaque chose vient en ceci. Et peut-être, quand je devrais aller quelque part pour tenir des réunions, je ne sais jamais quand je vais être à une réunion, être appelé pour une réunion, car je n'établis rien jusqu'à ce que je me sente conduit à faire une certaine chose. Et peut-être, avant demain matin, je peux voler vers la Californie, vers le Maine ou quelque part, juste où il voudra m'appeler. C'est la raison pour laquelle je n'établis pas de grand et long itinéraire, parce que je ne peux pas faire cela. Mon ministère n'est pas taillé de cette façon, et c'est vraiment différent. Maintenant, je suis venu à la maison juste pour prendre un petit peu de repos. J'ai perdu 20 livres dans cette dernière série de réunions. Et frère Mercier et frère Gaude étaient là-bas pendant quelque temps. Et il m'a dit, « Frère Branham, je remarque que vous mettez tout votre cœur dans ce que vous faites. Je dis, c'est la seule façon que vous puissiez faire un travail correct pour le Seigneur. C'est de mettre chaque chose que vous possédez en premier lieu pour Christ. » Toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, toute votre pensée, chaque chose que vous possédez. Et quand vous faites quoi que ce soit, faites-le correctement ou ne faites rien du tout. Voyez-vous? Laissez cela de côté. Et si vous désirez être un chrétien, placez chaque chose que vous possédez en Christ, c'est-à-dire votre temps, votre talent, chaque chose qui est vôtre. Oh, je remarque juste ce jeune ami ici. C'est votre femme, frère Burns, n'est-ce pas? Jouant et chantant là, ce jeune couple. Eh, ce n'est pas un piano, ce n'est pas non plus une orgue, mais c'est quelque sorte d'instrument. Ils font un pianote et tirent et ils font quelque chose pour le Seigneur. Si vous pouvez faire cela et chanter et que gagner des âmes, faites quelque chose. Peu importe si vous pouvez siffler, pourquoi pas siffler, faites juste quelque chose, témoignez ou faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Quoi que vous possédiez, utilisez-le dans le service de Dieu. Maintenant, nous allons essayer de ne pas vous retenir très longtemps, car je sais que vous travaillez et vous devez vous lever tôt. Et je vais chasser l'écureuil chaque matin, je vous dis la vérité, c'est ce que je fais. C'est pour cela que je suis revenu à la maison. C'est pour me reposer un peu. Et ainsi, je me lève autour des 4 heures, et je sors dans les bois, Eh bien, je chasse un petit peu, je vais dormir et je reprends un peu de poids. Ainsi, je me reposerai un peu de temps si le Seigneur le veut. Et tout est pour le mieux. C'est bien. Maintenant, nous allons prendre dans nos Bibles. Je veux que vous apportiez vos Bibles chaque soir que vous, si vous le pouvez. Et si quelqu'un oublie, il y a un peu, quelqu'un qui veut suivre tout au long des lectures, nous en avons quelques-unes ici. Nous avons l'un des huissiers les distribuera. Qui en veut une? Bien, levez juste votre main. Je me demande si frère Doc vient ici et prend ses Bibles. Nous sommes assis dans l'intimité ici. Et frère Burns, est-ce exact, Burns? Je l'entends dire. Quoi? Conrad? Je l'appelle. Oh, cela m'est difficile d'une certaine manière d'entendre, frère Neville. Comment ai-je jamais gardé le prénom de Burns? Je connais le visage de l'homme et je ne peux, pourrais dire son nom. Et vous savez, alors que vous prenez de l'âge, j'ai découvert une chose. Cela m'est difficile de lire cette Bible. Et je déteste à penser d'avoir à porter des lunettes pour lire la Bible. Il n'y a pas longtemps, je pensais que j'étais en train de devenir aveugle. Et je suis allé voir Sam. Et Sam m'a dit, « Bill, je ne sais pas, je t'obtiendrai un rendez-vous avec quelques spécialistes. » Et je suis allé à Louisville. Et cela doit avoir été la volonté du Seigneur. Un spécialiste est fameux. J'ai oublié son nom maintenant. Mais il a lu mon livre et il m'a dit, « Si jamais vous retournez en Afrique, je veux aller avec vous. » Il m'a dit, « Et si vous... » Eux, les gens africains, vous aiment. Ils sont très superstitieux, spécialement en ce qui concerne un couteau, se taille à dents. Ainsi, je veux donner 6 mois de ma vie pour des opérations de cataracte et autre chose dans la mission. Et il me dit, si nous pouvions aller ensemble, alors vous, vous gagneriez leur faveur comme cela. Alors, s'ils ont des cataractes et des maux visuels, je ferai cela gratuitement par amour pendant 6 mois. Et j'ai oublié combien de temps vous devez attendre pour avoir un rendez-vous avec lui. Et nous étions installés dans une petite pièce. Il y avait une petite lumière rouge qui apparut sur le fond là, dans la pièce sombre. Je pus lire les lettres. Il dit 20-20. Je pus le lire de toutes les manières. Et il plaça soudainement sur 15-15. Et je pus le lire. Et il le mit sur 10-10. Et je pus le lire. Il dit... Il n'y a rien de grave avec vos yeux. Ainsi, il avait une petite lunette. Il plaça derrière un petit truc là, une petite chose. Vous connaissez ces vieilles lunettes? Combien s'en souviennent? Nous les utilisions pour regarder à travers et voir des images. C'est juste comme cela. Et il dit, pouvez-vous lire cela? Et je dis, oui monsieur. Il dit, lisez-le pour moi. Et il y avait, oh, un paragraphe entier. Environ comme cela. Et je commençais à lire, et il commençait à le diminuer. Et je l'observais, devenant de plus en plus petit, et il l'amena à peu près comme cela. Alors, je me suis arrêté. Il dit, je peux vous dire une chose, vous avez dépassé les 40 ans. Je dis, oh, c'est vrai, il y a longtemps que je les ai dépassés. Il dit, comment avez-vous fait? L'œil humain, naturellement, quand vous arrivez à 40 ans, comme vos cheveux deviennent gris et ainsi de suite, la bille de l'œil s'aplatit. Maintenant, si vous vivez assez longtemps, cela se remettra. Il dit, on appelle cela alors la seconde vue. L'être humain autour des 40 ans actuellement, il n'y a rien de grave avec leurs yeux. Je peux voir un cheveu s'il traîne sur le plancher. Mettez-le loin de moi, mais mettez-le près de moi. Et il me dit, maintenant vous lisez vos Bibles et vous la tenez loin de vous. D'ici peu, vos bras ne seront plus assez longs. Vous ne pourrez aller assez loin pour la tenir. Et ainsi, il me fit une paire de lunettes. Et la partie inférieure, c'est pour lire. Il dit, maintenant, dans votre chair, il pensait que j'étais l'un de ces prédicateurs distingués, vous savez. Et ainsi, il me dit que la partie supérieure, c'était juste du verre normal, juste du verre normal. Et la partie inférieure, était en quelque sorte travaillé pour que je puisse lire de près. Vous savez, comme cela. Aussi, je déteste les maîtres. Je déteste. Et maintenant, dans l'enseignement de la Bible, j'ai pris le Nouveau Testament ce soir. Aussi, j'ai pris un Nouveau Testament Collins. Il est imprimé en gros caractères. Mais maintenant, quand je reviens à l'autre, j'ai besoin d'avoir ces vieux lorgnons et de lire de cette sorte avec leur aide. Mais quoi qu'il en soit, je suis heureux de quelque chose, que je puisse encore lire. Et peu importe ce qu'il advient de moi, je veux donner chacun chaque chose que je peux pour la gloire de Dieu. Et j'espère qu'il enlèvera la marque de l'âge. Je ne peux pas lui demander d'enlever mes années. Vous savez, c'est une chose que nous devons tous subir. Nous devons tous passer par là. Et je sais que je ne suis plus un petit garçon comme je l'étais, me tenant ici sur l'estrade. J'ai 48 ans. Et pensez juste, 2 ans de plus pour en avoir 50, frère Mike. Oh, ça m'est difficile de le croire. Je n'ai jamais réalisé que je n'avais plus 20 ans jusqu'il y a 2 ans. C'est vrai, c'est vrai. Je n'arrive pas à le croire. Et maintenant, c'est dur pour moi de le croire jusqu'à ce que j'utilise ces lunettes. Et alors, je sais que c'est ainsi. Mais, juste en passant, je me sens aussi bien que jamais auparavant je ne me suis senti dans ma vie. Et je suis reconnaissant pour cela aussi. Oh, louange soit à Dieu. Maintenant, nous étudions l'épître aux Hébreux. Oh, c'est l'un des plus riches et profonds livres de la Bible. Je vous dis, c'est un livre qui sera réellement, si Dieu le permet, et que nous descendions en cela, je crois que nous découvrirons des pépites d'or, à tel point que nous éclaterons en louanges pour Dieu. Et maintenant, l'épître aux Hébreux, réellement qu'est-ce? On suppose qu'elle a été écrite par saint Paul, celui qui a été le meilleur exposant de la Bible. Pardonnez-moi que le monde ait jamais eu en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul sépara le. Maintenant, Paul était un réel enseignant de la Bible, ce qui était l'Ancien Testament. C'était le seul livre écrit alors qui était appelé Bible. Et il essaya de montrer aux Hébreux, séparant l'Ancien Testament est montrant que l'Ancien Testament était une ombre ou un type du Nouveau. Directement ici, nous pourrions tracer une ligne et demeurer 3 mois directement ici sur cette unique pensée. Directement ici. Pour revenir, si nous pouvons aller dans nos Bibles maintenant. Bien sûr, nous sommes dans le premier chapitre des Hébreux. Mais si nous regardions dans l'Apocalypse, le chapitre 12, vous verriez cela parfaitement à nouveau. Comment les ombres? Si vous avez pris vos crayons et que vous notiez les Écritures, dans Apocalypse 11, nous découvrons que Jean, sur l'île de Patmos, vit une femme se tenant dans les cieux. Elle avait le soleil à sa tête et la lune sous ses pieds. Et la femme était en travail avec un enfant à naître. Elle mit au monde un enfant mâle. Le dragon rouge se tenait là prêt à dévorer l'enfant aussitôt qu'il serait né. Et l'enfant fut enlevé dans le ciel, et la femme conduite dans le désert, où elle fut nourrie pour un temps et la moitié d'un temps, ou une division de temps. Maintenant, la femme représente l'Église. Et l'enfant qu'elle mit au monde fut Christ. La lune sous ses pieds, la loi. Le soleil à sa tête était la grâce. Les 12 étoiles dans sa couronne étaient les 12 apôtres. Les 12 apôtres étaient la gloire ou la couronne du Nouveau Testament. Vous voyez? Car aucune autre fondation ne peut être posée que celle qu'il a déjà été. Vous voyez? La fondation, le Nouveau Testament, les apôtres, la doctrine des apôtres, et ainsi de suite, c'est la couronne de fondation du Nouveau Testament. Et alors, la lune est une ombre du soleil. Le soleil reflète juste sa propre lumière quand il est derrière la terre, et la lune donne la lumière durant la nuit. Et quelle magnifique image nous avons ici. Une autre magnifique image. Le soleil représente Christ. La lune représente l'Église. Ils sont comme maris et femmes. Et en absence de Christ, l'Église reflète la lumière mineure, l'Évangile, et c'est la lumière dans laquelle marcher jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau. Alors, l'Église et le Fils, la lune et le soleil fusionnent ensemble. Vous voyez, la lune est une partie du soleil, et l'Église est une partie de Christ. Et pendant l'absence de Christ, l'Église reflète sa lumière. Et alors, aussi certainement que nous pouvons voir la lune briller, nous savons que le soleil brille quelque part. Et aussi longtemps que l'Église reflète la lumière de Christ, Christ est vivant quelque part. Amen. Pensez à cela. Maintenant, la loi était un type de la grâce, mais la loi n'avait point de puissance de salut en elle. La loi était seulement un... La loi était un policier. Le policier vous met en prison. Mais voyez-vous, prendre la grâce vous sort de prison. Vous voyez? Ainsi, le sang de Christ, l'Évangile, nous délivre du péché. La loi fait seulement de nous des pécheurs. La loi dit seulement, tu es un pécheur, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu n'apporteras point de faux témoignages. Vous voyez? C'est un policier qui vous dit que vous êtes faux et que vous êtes coupable. Mais l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Christ mourut pour nous sauver de tous nos péchés, de nos transgressions de la loi. Christ mourut pour nous sortir de là. Maintenant, Paul, dès qu'il fut converti, il ne consulta jamais aucun séminaire, pas plus qu'il ne consulta un prédicateur. Mais avez-vous remarqué, il descendit en Arabie et il fut là 3 ans en Arabie. Maintenant, ceci est mon opinion, que nous allons obtenir l'arrière-plan de ceci. Ainsi, nous connaîtrons combien c'est substantiel. Et dans cette première leçon ce soir, nous prendrons notre arrière-plan. Maintenant, Paul fut un tel enseignant de la Bible parce qu'il fut enseigné par le fameux Gamaliel durant tout ce grand moment. Et il était l'un des mieux connus de ce jour, ce grand enseignant de la loi et des prophètes. Ainsi, Paul fut bien instruit dans ces choses. Et alors, je l'aime de cette façon. Cette grande révélation étant honnête dans son cœur, un meurtrier, il avait consenti à la mort d'Étienne, et il vit Étienne mourir sous les pierres et les mottes de terre étant lapidées à mort. Et je pense que cela a dû marquer Paul quand il vit Étienne lever ses mains au ciel et dire « Je vois les cieux ouverts et je vois Jésus se tenant à la droite de Dieu. » Et il dit « Père, ne leur impute pas ce péché. » Et il s'endormit. Avez-vous remarqué qu'il n'est jamais mort? Il s'endormit, juste comme, je ne crois pas qu'il tomba comme un rocher, mais juste comme un bébé sur le sein de sa mère, s'endort. Étienne s'endormit dans les bras de Dieu. Il y a ici quelque chose au sujet de Paul qui le marqua. Alors il, un homme sous conviction, essayant de la combattre, il retourna chez le grand prêtre et il reçut quelques lettres. Il dit, j'arrêterai tous ces gens qui font tout ce bruit et ces hérétiques, qui étaient considérés comme ce que nous appellerions aujourd'hui quelques fanatiques radicaux ou quelque chose comme cela, faisant un tas de bruit et causant des troubles. Nous descendrons et nous y mettrons ordre. Et descendant la route, une vieille petite, non pas une grande autoroute comme nous utilisons maintenant, les routes en Palestine, juste des petites pistes, comme un sentier à vaches à travers les bois, par où le bétail et les brebis et les chevaux et les ânes et les chameaux passaient les collines. Et Paul, descendant la route vers Damas, autour de midi, une grande lumière brilla d'en haut et le jeta sur le sol. Pas un de la vie, sauf Paul. Je voudrais que vous notiez cela. Et directement ici, ceci n'est pas personnel. Maintenant, mais nous nous dirigeons juste vers cet arrière-plan, que vous sachiez que ce même Jésus, maintenant, quand il était ici sur terre, il dit, « Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. » Et quand il conduisit les enfants d'Israël, il était une colonne de feu et il fut fait chair. Alors il redevint cette même colonne de feu. Et quand il rencontra Paul sur la route de Damas, il était cette colonne de feu, cette lumière. Vous voyez, une grande lumière. Et Paul dit, « Qui es-tu que je persécute ?» Et il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » La lumière. Oh, n'est-il pas merveilleux? Il est ici ce soir, directement ici, avec nous. Il a sa photographie prise directement là. La même chose. Voyez-vous, colonne de feu, lumière, juste le même comme il était, le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, les hommes qui étaient avec lui ne virent pas cette lumière. Mais elle était là, juste la même. Les résultats sont les mêmes. Maintenant, est-il possible que quelqu'un puisse voir Christ dans ce bâtiment et que personne d'autre ne le voit? Certainement, cela arriva là. Cela arriva aussi une nuit, quand Pierre était en prison. Et cette lumière va dans la prison. Elle toucha Pierre. Il put aller directement de l'enceinte intérieure jusqu'au portail extérieur. Il prit la porte principale, la porte donnant sur la ville. Pierre dit, « Je dois avoir rêvé. » Il regarda autour de lui, mais la lumière était partie. Christ, cette éternelle lumière perpétuelle, il était là, voyez-vous? Maintenant, descendons la route et regardez une autre chose. Aujourd'hui, alors que nous parlons de cela, cela me vient juste à la pensée. Les mages qui suivirent l'étoile tout le long du chemin depuis l'Inde, l'Orient, des mois durant, traversant les vallées et les déserts, elle passa au-dessus de tous les observatoires. Et il déterminait le temps, la nuit par les étoiles. Et aucun historien ou quiconque n'a jamais mentionné avoir vu cette étoile. Mais les mages, cela n'était réservé qu'à eux de la voir. Ainsi, vous pouvez voir des choses qu'un autre ne peut voir. Pour vous, c'est une réalité. Pour lui, il ne peut pas comprendre. Juste comme la conversion. Vous pouvez être converti et vous réjouissant dans les bénédictions de Dieu. Buvant cela, les bénédictions de Dieu. Et votre voisin ici près de vous, je ne vois rien. Vous voyez, c'est cela. Je ne réalise pas cela. Je ne vois pas du tout ce qu'il en est à ce sujet. Bien, il ne le réalise juste pas. C'est tout. Là où vous en êtes. Remarquez maintenant, Paul descend dans la route. Et juste avant que cette grande expérience lui arrive, maintenant, il n'était pas satisfait. C'est ce qui rendit Paul si bon. Maintenant, notre leçon ce soir n'est pas profonde. C'est juste une leçon superficielle. Mais, oh, nous entrerons dans la profondeur d'ici peu. Mais ceci est une leçon très peu profonde. C'est juste le commencement. Et c'est ce qu'il en est. C'est une chose, c'est l'exaltation de Jésus-Christ. Paul commence avec cela. Et avant qu'il fasse cela, Paul était un étudiant de la Bible. Et un étudiant de la Bible ne reposera jamais sa doctrine sur des expériences. Non, monsieur, ils ne feront pas reposer leur doctrine sur l'expérience. Vous pouvez avoir une certaine sorte d'expérience, mais cela doit être « Ainsi parle le Seigneur ». C'est vrai. Maintenant, dans l'Ancien Testament, ils avaient trois différentes façons par lesquelles ils pouvaient connaître un message. Premièrement, la loi, ce qui était juste la loi. Puis, ils avaient un prophète, un songeur. Ils avaient le Urim Thummim. Maintenant, cela est peut-être un peu plus profond. L'Urim Thummim était le pectoral qu'Aaron portait sur sa poitrine. Là, il y avait dessus 12 pierres. Jaspe, sardoine, escarboucle, et ainsi de suite. Ils avaient pris toutes ces 12 grosses pierres qui étaient dans le pectoral, montrant qu'il était le grand prêtre de chaque tribu, les 12 tribus d'Israël. Et ce pectoral pendait à un pilier dans l'église. Et quand un prophète prophétisait, et qu'il voulait être sûr si c'était juste ou pas, les prophètes ou les songeurs se tenaient devant cette Urim Thummim. Et il racontait son rêve ou sa vision, quoi que ce soit qu'il avait vu. Et si la lumière sacrée, oh, voyez-vous cela, Dieu demeure toujours dans le domaine surnaturel. La conglomération, ces lumières étaient tout à fait normales, jusqu'à ce que cette voix les traverse, et quand la voix touchait ces pierres, si ce n'était pas surnaturel, elle n'avait aucun éclat. Mais si c'était surnaturel, ces lumières reflétaient toutes ensemble la lumière de l'arc-en-ciel. Amen. Alors c'était Dieu qui parlait. Ceci est mon prophète. Ce rêve vient de moi. C'était selon le Urim Thummim qu'il jugeait. Vous souvenez-vous de Saül, quand il rétrograda? Il dit qu'il ne pouvait avoir un songe. Et le prophète Samuel était mort. Et il n'y avait pas d'issue. Il dit, même le Urim ne me parlera pas. Rien! Saül se tint devant le Urim. Ses paroles étaient des coups pour rien. Voyez, Dieu lui refusa. Et cet Urim Thummim, c'était la confirmation de la prêtrise d'Aaron. Après qu'Aaron s'en alla, Moïse, le pectoral fut suspendu à un pilier. Maintenant, la prêtrise aaronique cessa quand Jésus mourut. Et maintenant la loi est séparée de la grâce. Mais nous avons encore un Urim Thummim. Et Paul l'utilisait, voyez-vous? L'Urim Thummim, aujourd'hui, c'est l'immortelle, éternelle parole perpétuelle de Dieu. Vous voyez? Car quiconque enlève quelque chose à ce livre, ou lui ajoutera quelque chose, je ne veux rien en dehors de lui, mais je le veux tout entier. Ceci, c'est l'Église. Nous voulons, et toutes choses doivent être prouvées par la parole. C'est la raison pour laquelle je pris un coup mat récemment parmi les pentecôtistes. Car je dis, je ne peux pas comprendre que l'huile jaillissant de vos mains ou que votre visage qui saigne soit un signe que vous avez le Saint-Esprit. Ce n'est pas scripturaire et je ne peux pas l'accepter. Cela doit venir de la parole. Alors maintenant, Paul aimait juste la parole. Aussi, avant de vouloir témoigner de cette grande expérience qu'il avait, il descendit en Égypte pendant 3 années. Je crois que c'était 3 années. 3 années là-bas en Égypte. Et vous savez ce que je crois qu'il fit? Je crois qu'il prit l'Ancien Testament. Il rechercha à travers l'Ancien Testament. Et il découvrit que c'était réellement l'absolu Messie. Il avait prouvé son expérience par la Bible. Amen. Oh, regardez à lui quand il était en prison. Vous remarquez, Paul passa une partie de sa vie en prison. Il fut là pour un long moment. Il écrivit l'Épître aux Éphésiens. Il écrivit cette lettre aux Hébreux. Voyez, il avait du temps. Dieu le conduisit au loin dans une prison. Et il écrivit ses lettres aux églises. L'une à l'église d'Éphèse, il écrivit une autre à l'église pentecôtiste. Il avait une série de troubles avec eux, l'église pentecôtiste. Il avait le plus de troubles avec elle qu'avec n'importe quel autre. C'est encore ainsi, mais il était reconnaissant pour eux. La seule chose qu'il pouvait leur enseigner, quand ils entraient, un avait une langue, l'autre avait un psaume, l'autre avait une sensation, l'autre une émotion. Il ne pouvait leur parler sur la sécurité éternelle. Il ne pouvait leur parler sur la prédestination. Il ne pouvait leur parler. Ils étaient des bébés. Ils voulaient tous ressentir quelque chose, ou voir quelque chose, ou avoir des émotions curieuses, et, ou quelque chose parmi eux, quelques évidences. Mais je crois, quand il parla aux Éphésiens, il put leur parler sur « Dieu nous a prédestinés à être ses fils et ses filles ». Elle nous a adoptés comme ses enfants en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Regardez à cela. Oh, regardez-le venir dans l'Épître aux Romains, et ainsi de suite. Ils étaient devenus grands. Oh, ils parlaient en langue, certainement, et ils avaient les autres signes du Saint-Esprit au milieu d'eux. Mais ils ne faisaient pas de doctrine de leurs sensations et des petits frémissements et des émotions curieuses. Paul dit, vous allez aux extrêmes avec cela. Quand vous devriez être des enseignants, vous êtes encore des bébés et vous devez avoir du lait. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de combattre pour que ce tabernacle ne soit pas une bande de bébés. Grandissons, tenez-vous sur la route. Oh, là vous y êtes. Ainsi, Paul descendit là premièrement pour voir si son expérience s'harmonisait avec la Bible de Dieu. Oh, ne serait-il pas merveilleux aujourd'hui si les gens faisaient seulement cela à nouveau? Si nous faisions que notre expérience s'harmonise avec la Bible de Dieu? Si cela n'est pas le cas, alors notre expérience est fausse. Elle ne fait pas étinceler l'Urim Toumim. Si cela étincelle, amen, nous l'avons. Mais si cela n'est pas, je ne m'occupe pas combien bon cela semble. Si cela apparaît tellement réel, comme si c'était vrai. Si ces lumières ne font pas étinceler l'Urim Toumim, c'est faux. Et peu importe combien beaucoup d'expérience vous avez, combien réel cela semble être, combien présentable cela est, combien d'éducation cela a, quel grand instrument c'est pour gagner les âmes, si cela n'étincelle pas dans la parole, c'est faux. C'est vrai. Cela doit être aligné avec la parole. Maintenant, je crois qu'il y a un milieu du chemin. Le chemin, quelquefois, j'avais l'habitude d'aller à une église nazaréenne. Le Seigneur bénit ces chères personnes. Méthodistes, sanctifiés à l'ancienne mode, c'est ce qu'ils sont. L'église de Dieu, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et beaucoup de ces bonnes vieilles églises de sainteté. Et ils ont l'habitude de chanter ce chant. Je marche dans la grande vieille voie supérieure, disant partout où je vais, je préfère être un chrétien de l'ancien temps, Seigneur, que n'importe quelle autre chose que je connaisse. Bon, merveilleux. Et alors, ils avaient l'habitude de parler au sujet de la voie supérieure de la sainteté. Maintenant, si vous liriez à ce sujet, ils prennent cela dans Ésaïe 35e chapitre. Maintenant, si vous remarquez, il dit, il y aura une voie supérieure et un chemin. Maintenant, est une conjonction, vous voyez, une voie supérieure. Ce n'est pas une voie supérieure de sainteté. Il y aura une voie supérieure et un chemin. Et il sera appelé le chemin de la sainteté. Non pas la voie supérieure de la sainteté, le chemin de la sainteté. Et le chemin de la route est dans le milieu de la route. C'est construit ainsi pour que les eaux s'évacuent des deux côtés, laissant la route propre. Si vous ne faites pas ainsi, vous aurez des ornières dans votre route tout le temps. Ce n'est pas construit correctement. Le chemin est le milieu de la route. Maintenant, d'un côté, quand les gens se convertissent, leurs pensées sont placées directement sur Christ. Et s'ils sont juste de petits savants et qu'ils ne sont pas gardés sous la prière, ils deviennent réellement froids, guindés et empesés et indifférents. Mais alors, s'ils sont juste un petit peu nerveux, si vous n'y prenez pas garde, ils deviendront intransigeants et extravagants. De ce côté, voyez, ils entrent dans les sensations et toutes ces choses. Maintenant, mais l'Église réelle est un évangile réel et sensé, directement dans le milieu de la route. Cela n'est ni froid et guindé, ni non plus du fanatisme. Cela est un réel, bon, vieil évangile, chaleureux, un cœur ressentant l'amour de Dieu, descendant droitement le milieu de la route, appelant des deux côtés ensemble. C'est vrai. Et comment allez-vous obtenir cette Église? Directement de la parole, le Urim Toumim. Amen. Maintenant, Paul voulait que l'Église marche correctement dans le milieu de la route. Ainsi, il alla et étudia 3 ans dans les Écritures ce qu'il connaissait. À la suite de cela, Paul écrivit la plus grande partie de ce Nouveau Testament. Dieu l'utilisa pour faire cela, parce que l'âge des gentils était en train de commencer. Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles, ils étaient juifs, mais Paul écrivit la plupart des épîtres. Remarquez maintenant, nous sommes en train de démarrer, obtenant ce fondement, où il était à ce moment-là, écrivant de la prison, et il avait eu toute cette expérience. Mais premièrement, cette expérience devait être d'abord prouvée, et ceci est son épître clé, ceci est son épître clé. Les Romains et les Éphésiens et les autres ont leur place. Mais ceci est l'épître clé. Maintenant, Le premier chapitre entier est l'exaltation de Jésus, est ce qui le distingue d'un simple prophète. C'est le thème général maintenant, et j'essaye de l'avoir aussi vite que je peux, car nous ne voulons pas rester trop longtemps. Le thème général est la séparation du nouveau. Le premier chapitre distingue Jésus de chaque prophète, de chaque loi ou autre, et montre qui est Jésus. Maintenant, regardez. Dieu, nous commençons au premier mot, Dieu, à divers moments, divers signifie retour en arrière, le temps passé, divers moments et de différentes façons à parler dans le passé à nos pères par les prophètes. Voyez, Dieu à divers moments, retour en arrière, il parla aux pères par les prophètes. Voilà comment il devait donner son message, au travers de son prophète. Dieu envoya son prophète, comme Élie, Jérémie, Ésaïe. Et si vous remarquez, jamais dans toute l'histoire du monde, jamais l'Église n'a produit un prophète. Cherchez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ou dans ce jour, dans ce dernier jour. Montrez-moi un prophète qui s'est élevé de l'Église dans ce dernier jour. Montrez-moi-en un suscité ainsi. Et montrez-moi une fois s'il y a eu un prophète, un réel serviteur de Dieu, que le système ecclésiastique du monde n'ait pas condamné. Pensez juste à cela. Jérémie, Ésaïe, tous ceux au travers de l'Ancien Testament, ils furent condamnés. Jésus dit, vous ornez les tombes des prophètes et vous les blanchissez, et c'est vous qui les avez mis dedans. C'est vrai. L'Église continue cela. Regardez à Saint Patrick. Vous, Jean catholique, vous le réclamez. Il n'est pas plus catholique que je ne le suis. Mais vous le réclamez. Regardez à Saint François d'Assise. Vous le réclamez. Il n'est pas plus catholique que je ne le suis. Regardez à Jeanne d'Arc. Vous l'avez brûlée sur un bûcher comme une sorcière, parce qu'elle avait eu des visions et qu'elle était spirituelle. Vous l'avez brûlée sur un bûcher. Et cette femme, criant pour la grâce, et ils l'ont brûlée sur un bûcher. Environ un siècle plus tard, ils découvrirent qu'elle était une prophétesse. Elle était une servante de Dieu. Oh, évidemment, vous avez administré une bonne sanction. Vous avez exhumé le corps du prêtre et l'avez jeté dans la rivière. Vous ornez les tombes des prophètes et vous les placez dedans. C'est vrai. Jamais le système ecclésiastique n'a produit un homme de Dieu. Jamais il ne l'a fait. Il ne le fait pas aujourd'hui. Et il ne le fera jamais. La religion organisée n'a jamais été le thème de Dieu. Et la plus vieille église organisée dans le monde, c'est l'Église catholique. En second, Luther. Alors vint Zwingli. Après Zwingli vint Calvin. Et de Calvin, on passa aux Anglicans. Les Anglo-Saxons prirent cela. Et alors nous eûmes l'Église anglicane. Le roi Henri VIII protesta, et ainsi de suite, et nous arrivâmes aux méthodistes de Wesley. Puis les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et en dernier, les pentecôtistes. Tous organisés. Et la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est une femme de mauvaise vie, et que les églises protestantes et leurs organisations sont ses filles. Apocalypse 17. C'est parfaitement exact. Je ne parle pas des individus. Il y en a de bons dans toutes les églises, des gens sauvés et saints. Mais Dieu n'appelle pas son peuple par une organisation. Il les appelle en tant qu'individus. Dieu traite avec des individus. Que vous soyez un méthodiste, un baptiste, un protestant ou un catholique, ou qui que vous soyez, avant la fondation du monde, il vous connaissait. Et il vous prédestina à la vie éternelle. Ou d'autre part, vous avez été prédestinés à la perdition éternelle. Il ne voulait pas que vous périssiez, que vous deviez être perdus. Mais lui, étant infini, il devait savoir la fin dès le commencement, où il n'est pas Dieu. Ainsi, Jésus ne vint pas sur la terre juste pour dire, « Bien, je verrai si quelqu'un accepte la grâce. Si j'agis et que je meurs d'une façon terrible, ils penseront probablement, bien je, cela persuadera leur cœur. Non, Dieu ne conduit pas son œuvre comme cela. Jésus vint pour un but spécifique, pour sauver ceux que Dieu, avant la fondation du monde, savait être sauvés. Il le dit ainsi, c'est vrai, ce n'est pas celui qui veut ou celui qui court, c'est Dieu qui montre sa grâce. Paul dit cela, le même homme ici, il dit, c'est la raison pour laquelle Dieu pouvait dire, avant qu'Ésaü ou Jacob, l'un et l'autre soient nés, il dit, j'aime l'un et je hais l'autre. Avant que l'un ou l'autre garçon soit né, Dieu savait qu'Ésaü était un homme d'affaires véreux, et il savait que Jacob était un. Il aimait son droit d'aînesse. Ainsi il savait cela, avant que le monde fût formé. Maintenant, nous allons découvrir dans une minute qui était celui qui savait cela. Ce chapitre nous l'apporte. Dieu, qui à divers moments et de manière différente, parla au Père par les prophètes, nous a dans ces derniers jours parlé par son Fils. Qu'a-t-il fait? Il nous a parlé dans ces derniers jours par son Fils. Maintenant, comment penseriez-vous alors que serait un prophète? Aurons-nous un prophète dans ce jour? Absolument. Parlera-t-il par lui? Certainement. Les prophètes de l'ancien temps étaient l'esprit de Jésus-Christ. Ayons cela droitement, parce que je ne pense pas que cela ait été reçu d'une façon juste. Ceci est un peu comme une école du dimanche. Aussi, nous voulons le rendre clair, voyez-vous? Remarquez, prenez l'Esprit de Dieu qui était en Moïse. Il était parfaitement une ombre préfigurative de Jésus-Christ. Tous les caractères de l'Ancien Testament étaient des ombres préfiguratrices de la croix. Moïse, né à un enfant particulier, caché dans les roseaux, enlevé à ses parents, ainsi de suite, et il était un roi ou un conducteur, celui qui donne la loi, un intercesseur, un prêtre. Chaque chose qu'il était préfigurait Christ. Regardez à Joseph, aimé par son père, haï par ses frères, et vendu pour à peu près 30 pièces d'argent, jeté dans une fosse, laissé pour mort, retiré de là, dans sa persécution, les chansons sauvées et le panetier perdu, deux brigands à la croix. Et alors, quand il sortit, il fut élevé au-dessus de cette fosse et placé à la droite de Pharaon, la plus grande nation commerciale, celle qui dirigeait tout le reste du monde. Et aucun homme ne pouvait venir à Pharaon, à moins de passer par Joseph. Jésus, se tenant à la droite de Dieu, et aucun homme ne peut venir à Dieu, si ce n'est au travers de Christ. Et quand Joseph quittait son trône et sortait, quelqu'un le précédait, criant et sonnant de la trompette, disant, « Fléchissez les genoux, Joseph vient. » Et quand Jésus viendra, une trompette sonnera, et chaque genou devra fléchir, et chaque langue le confesser. Oui, monsieur, là il était. Et quand Joseph mourut, il laissa un mémorial à ceux qui attendaient la délivrance. J'ai posé ma main sur le vieux coffret. Ici, il n'y a pas longtemps, il était fait en plomb. Et son corps est supposé demeurer là, ses os. Il dit, « Ne m'ensevelissez pas ici, car l'un de ces jours, Dieu viendra vous visiter. » Il était un prophète. Dieu viendra vous visiter. Et il dit, « Quand vous irez dans la terre promise, prenez mes os. » Là, un vieil hébreu, avec un don battu et sanglant, put regarder en ce coffret et dire, « L'un de ces jours, nous nous en irons. » Jésus laissa un mémorial, un tombeau vide, « L'un de ces jours, quand nous irons au-dessus de la tombe, et nos bien-aimés, et les entendre, petites mottes de terre, quand elles disent, « Cendre des cendres et poussière de la poussière et terre de la terre, mes frères, nous pouvons regarder par-delà la mer, à un tombeau vide, l'un de ces jours, nous nous en irons d'ici, nous irons à la maison, il vient, chaque chose est un type. Regardez à David, rejeté par son propre peuple, détrôné par son propre peuple, étant roi de Jérusalem, il fut chassé hors de Jérusalem par son propre peuple. Et alors qu'il montait sur le mont des Oliviers, il regarda en arrière et il pleura. Il était rejeté. 800 ans après cela, le fils de David, le roi de Jérusalem, monta la même colline et pleura parce qu'il était rejeté. C'était l'esprit de Christ en David. Tout préfigurait la croix. Les prophètes de ce temps-là parlaient dans son nom. Ils vivaient dans son nom. Ils agissaient dans son nom, certainement. Dieu, à diverses époques et de manières différentes, parla au Père à travers les prophètes, mais dans ce dernier jour, au travers de son Fils. Ainsi, les prophètes et l'homme spirituel dans ce jour sont seulement le reflet de Christ. Là, par la loi, ils se tenaient, regardant. Au-delà, ici, ils se tiennent, regardant en arrière dans l'autre sens, à travers la grâce. Ainsi, dans les Hébreux 11, le dernier chapitre, je me suis souvent émerveillé de cela, dans le dernier chapitre, la dernière partie du 11e chapitre des Hébreux, quand il parle au sujet d'Abraham, le grand chapitre de la foi, et à la fin il dit, « Ils errèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, persécutés et maltraités. Ils errèrent, ça et là, aucun endroit où aller, haïs, dénués de tout et persécutés. De tels gens, le monde n'en est point digne. » Alors Paul se tint là, et il dit, « Mais sans nous, ils ne sont pas parfaits, car ils regardaient seulement à la croix, et nous regardons au travers de la croix. Nous avons l'Esprit de Christ, après qu'il devint chair humaine et habita au milieu de nous. Nous venons ici par le Saint-Esprit, ce qui est un meilleur plan, allons plus loin. » Et quelquefois, je me demande ce à quoi le christianisme s'attend aujourd'hui. Un prédicateur se déplaçant avec une tente doit être ou quelque nouvelle église, ou quelque nouvelle charge appelant lui-même un prophète, allant ici et là et se disant, « Bien, s'il me donne plus d'argent, si je peux avoir la meilleure voiture, si mon salaire augmente tous les 6 mois, nous devons avoir le mieux. Nous voulons obtenir les meilleures maisons. Nous devons avoir les meilleurs vêtements. Que ferons-nous quand nous tiendrons dans la présence de ces hommes qui erraient, vêtus de peau de chèvre et de peau de brebis, sans lieu pour poser leur tête, errant dans les déserts. Et nous, quand quelqu'un se moque un peu de nous, nous sommes prêts à quitter l'Église et à ne plus jamais y revenir. Quel christianisme aujourd'hui! Nous devrions être honteux de nous-mêmes. Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous. » Dans ce jour-là, il parla par les prophètes, mais dans ce jour-ci, au travers de son Fils. Alors, là, c'était la parole d'un prophète. Ceci est la parole du Fils, aujourd'hui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. En d'autres termes, si vous regardez à l'ombre, au négatif, vous pouvez faire une erreur. Mais ceci est développé. L'image est claire. Cela était par le prophète, mais ceci est par son Fils. Cela était par un négatif, ceci est par un positif. Amen. Le voyez-vous? Il n'y a aucune chance pour le perdre. C'est une chose positive aujourd'hui, au travers de son Fils. Oh, comme c'est merveilleux! Lequel il a établi héritier. Oh, héritier de toutes choses. Qu'est-ce? C'est un établissement. Oh, écoutez, il est établi. Christ est héritier de toutes choses. Oh, le diable savait cela depuis le jardin d'Éden. Vous voyez, quand le diable entendit cette parole-là, ce jour du jugement de ces gens, « Parce que tu viens de la poussière, tu retourneras à la poussière, et la semence de la femme meurtrira la tête du serpent. » Une semence promise. Satan constamment veillait à cette semence. Quand Abel fut né, il dit, « Là elle est, ceci est la semence. » Et il tua Abel. Son fils Caïn tua Abel. Et dès qu'Abel mourut, il dit, « J'ai eu la semence. » Il crut cela
Il dit, je l'ai eu.
Mais la mort d'Abel, la naissance de Seth fut la résurrection de nouveau. Faites attention comment il se comporte. Cette lignée de Seth, il vint comme un homme humble et juste, et cela descendit au travers d'Enoch jusqu'à Noé, à la fin de la destruction antédiluvienne. Regardez à la lignée de Caïn. Ils devinrent des gens distingués, éduqués, remplis de science. La Bible ne dit-elle pas, Jésus ne dit-il pas, que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume? Regardez du côté de Caïn maintenant aujourd'hui. Élégant, éduqué, sceptique, très religieux, voyez-vous? Très religieux, mais scientifique, constructeur, de grands hommes. Prenez ce grand homme, regardez à Thomas Edison, beaucoup de ces grands hommes, regardez à Einstein, les cerveaux du monde, comme on les appelle aujourd'hui, les cerveaux du monde. Mais nous n'essayons pas d'utiliser des cerveaux, nous laissons la pensée qui était en Christ être en nous, et regardons à cette parole, et appelons cela ainsi. Les docteurs en médecine croient que nous les saluons avec tout ce que nous avons, mais la plupart d'entre eux sont des sceptiques et des agnostiques. Regardez aux gens d'aujourd'hui, élégants et intelligents, ils sont de ce côté-là, le côté de Caïn. Mais regardez à ceux qui sont doux et humbles, c'est là qu'il y a votre résurrection à nouveau. Béni soit le nom du Seigneur, là vous êtes. Remarquez, il l'a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Qui a fait les mondes? Christ. Christ a fait les mondes. Oui, monsieur. Allons juste un peu plus loin. Qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa présence. Le resplendissement de quelle gloire? La gloire de Dieu. L'empreinte de quelle présence? Celle de Dieu. Oh, j'aime cela. Où l'empreinte de sa personne est soutenant toute chose par la parole, là vous y êtes, la parole qui soutient toute chose. Jésus dit en Matthieu 24, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Il soutient toute chose. La science essaye de faire tomber cela et dit, c'est un vieux livre, il a été traduit. Même l'Église catholique romaine, l'évêque Chine a dit, cela a été traduit 4 ou 5 fois, et peut-être davantage. Vous ne pourriez pas vivre par cela si vous le deviez. Mais il soutient toute chose par sa parole. Amen. Voilà ce que je pense à ce sujet. Je crois la Bible. La parole de sa puissance. Il y a de la puissance dans la parole. Ayant fait par lui-même la purification de nos péchés. Regardez ici. S'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Qu'est-ce que Paul essaye de faire? Il essaye de montrer que Dieu détermine toutes choses en Christ. Et Christ est l'image de Dieu. Tout le reste du chapitre est en rapport avec ce fait qu'il est plus haut que les anges, plus haut que toutes les puissances. Les anges l'adorent. Paul essaye de le magnifier. Maintenant, je veux essayer, si je n'arrive pas à aller plus loin que cela, le reste c'est juste la magnification de Christ. Ce Paul dit là, c'est comme dans le 11e chapitre, et tout ce qu'il dit au sujet du monde, il dit, à quel ange a-t-il dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Voyez-vous, la fin du monde, ils périront, le monde périra, et toutes les choses du monde périront. Il les roulera comme un manteau, ils vieillissent, changent et s'en vont. Mais tu demeures à jamais, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et tu ne périras jamais. S'étant assis à la droite de la majesté. Que signifie main droite? Pas que Dieu ait une main droite et que quelqu'un soit assis là. Main droite signifie la puissance et l'autorité. Il a l'autorité sur chaque chose dans les cieux et sur la terre. Et tous les cieux et la terre ont été faits par lui. Maintenant, qui est ce grand gaillard, ce grand compagnon? Christ! Ici, Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas une trinité. Ce n'est pas une trinité de personnes, c'est une trinité d'office d'un seul Dieu. Il était le Père conduisant les enfants d'Israël. C'était son office, le grand Jéhovah, le Père. et il vint sur la terre, et il fut appelé le Fils. Et maintenant, il s'est répandu dans son Église, et il est appelé le Saint-Esprit. Pas trois dieux, un Dieu en trois offices. Père, Fils et Saint-Esprit. Les gens essayent de faire de lui trois dieux différents. Dieu le Père, c'est la raison pour laquelle les Juifs, vous ne pourrez jamais, vous ne transmettrez jamais cela à un Juif. Non, il ne le peut pas. Il a reçu un commandement qui est « Je suis un Dieu ». Il y a seulement un Dieu. En Afrique, il baptise de trois différentes façons. Une fois pour le Père, une fois pour le Fils et une fois pour le Saint-Esprit. La mission de la foi apostolique baptise trois fois le visage en avant pour sa mort. Et ce qu'ils appellent le plein évangile sur la côte ouest ou la côte est, baptise trois fois en arrière dans son ensevelissement. Alors l'un dit, quand il mourut, il s'inclina en avant. L'autre dit, non, vous ensevelissez un homme sur son dos. Juste de vieilles petites choses techniques. Quand ils sont tous les deux dans l'erreur, les deux dans l'erreur selon les Écritures. Ceci est le Urim Tumim. Cela établit tout. Maintenant ici, prenons juste cette image. Voyons ce à quoi cela ressemble ce soir. Cela se trouve ici, si vous voulez le voir. Je suis un prédicateur depuis environ 25 ans. J'ai étudié cela. Et je me suis souvent demandé, quant à ces dons dans l'Église, qu'est-ce que ces dons? Prophétie, parler en langue, interprétation des langues, révélation divine, et ainsi de suite. Tout cela vient au travers de Christ. Maintenant, regardez, Christ est la tête de toutes choses. Et il est la tête de l'Église. Avez-vous jamais vu un gros diamant? Un gros diamant qui a été taillé correctement? On a sorti des éclats de lui. Cela en fait un diamant correct. Que sont les éclats? Le réel diamant, quand on l'extrait, il est meurtri. J'étais au Kimberley. Beaucoup d'entre vous qui avez entendu dire que l'on peut ramasser les diamants dans la rue, c'est vrai. Billy et moi et Monsieur Bosworth, le président des mines du diamant du Kimberley, prit. Il était mon huissier dans les réunions là-bas. Et il nous prit pour une visite. Il les extrait environ 1700 pieds sous terre. Ils en sortent une pierre bleue, grande et bleue comme cette pierre bleue que vous avez par ici. Et on place les indigènes à 1700 pieds sous terre. Et ils les extraient là pour garder des prix élevés. Vous iriez sur la rivière là-bas, ils la gardent sur des centaines de milles. Prenez deux wagons, me dit-il, remplissez-les de sable. Si vous pouvez retourner à la maison avec cela, vous serez un multimillionnaire. Car il y a tellement de diamants là-dedans. Mais ils doivent travailler et ils les extraient pour garder des prix élevés. Maintenant, quand le diamant est extrait, c'est juste comme un gros morceau de verre rond et lisse. Il y a des diamants bleus, blancs, émeraudes, et des diamants clairs et des diamants bleus. Mais quand il est extrait, alors, quand on le fait, il y a une partie du diamant qui doit disparaître. Il doit perdre tous ses petits éclats, chasser ses petits éclats, parce que quand il vient en pleine lumière, il doit étinceler. Quand il est taillé, cela étincelle. La façon dont il est taillé, et alors il étincelle. Et une facette produira une lumière verte, une autre une lumière bleue, peut-être une autre une lumière émeraude, et une lumière rouge. Et différentes lumières viendront de là, comme la couleur de l'arc-en-ciel. Ils appellent cela le feu du diamant. Maintenant, chacune de ces lumières représente les dons. Mais il y a seulement Christ est le diamant. Et il fut le seul qui vint. Et il fut meurtrier, blessé, taillé, afin qu'il puisse refléter lui-même à nouveau. Comme une lumière pour le monde. Il est le maître diamant. Pouvez-vous vous imaginer, avant qu'il y ait eu une terre, avant qu'il y ait eu une lumière, avant qu'il y ait eu une étoile, et avant qu'il y ait eu quoi que ce soit, il y avait une grande fontaine, la source du Saint-Esprit. Et c'est de cette fontaine que vient le plus pur amour, car il n'y a rien d'autre qui vienne de là, mais l'amour. Ce que nous appelons l'amour aujourd'hui, ce n'est juste que l'amour perverti. Mais si nous pouvons juste obtenir une essence ou un petit peu de cet amour en nous, cela changerait notre opinion entière. Et de cette fontaine principale, de ce diamant, sort un autre ruisseau. Et il est appelé la justice. Absolument, la justice.
C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une loi. C'est la raison pour laquelle la loi doit être accompagnée par un jugement. Si le jugement ne suit pas la loi ne sert à rien de bon. Et quand le jugement est transmis par la loi qui apporte la mort, il y en a un seul qui puisse payer pour le châtiment, Dieu lui-même. Et il a payé pour le châtiment de notre mort et pris nos péchés sur lui, afin que nous puissions être la justice de Dieu au travers de lui. Maintenant, quand ces grandes lumières sortent, ou ces grands rayons de l'esprit, l'amour, la paix, c'était tout ce qu'il y avait là. Il n'y avait là aucune souffrance, il n'y avait là aucune haine, ni non plus de malice. Cela ne peut pas venir de cette fontaine. C'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens nomment cela, les théologiens, une théophanie sortie de lui, ce qui est appelé dans les Écritures le Logos. Le Logos qui est sorti de Dieu. C'est difficile à expliquer, mais c'était une partie de Dieu. Voici ce qui arriva. Oh, excusez-moi, je suis juste sur cela. Cela me prend juste où je l'aime. Voyez-vous, le Logos est cette grande fontaine de l'esprit qui n'a ni commencement ni fin. Ce grand esprit commence à prendre forme dans la création. Et le Logos qui sort de là, c'était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps. Et le corps était semblable à celui d'un homme. Moïse le vit quand il passa derrière le rocher. Et il le regarda et dit, « Cela ressemble au dos d'un homme. Et c'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourons. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons déjà un autre qui nous attend. » C'était cela. Et c'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, ce Logos, devint chair, parce que nous étions dans la chair. Et la théophanie, le Logos devint chair ici, au milieu de nous. Et ce n'était rien d'autre que le lieu d'habitation pour cette fontaine entière qui demeurait en lui. Oh, pouvez-vous voir cela? Il est là. C'était celui qui dans... Regardez ici. Allons directement très vite à Hébreux, le 7e chapitre, juste pour un moment de grâce, Dieu voulant. Voyons si cela semble être comme ici. Abraham, combien avons-nous encore de temps? Nous avons 10 minutes. Bien. Très bien. Nous prendrons cela et alors nous finirons le prochain... ou dimanche, Dieu voulant. Abraham revenait du massacre des rois. Car ce Melchisédek, roi de Salem, combien savent ce que j'ai dit que Salem était? Jérusalem. Roi de Salem, prince du Dieu très haut, qui rencontra Abraham lorsqu'il revenait du massacre des rois et qu'il le bénit. Écoutez, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout, premièrement étant interprété roi de justice, et puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Un roi descendit de Salem et rencontra Abraham qui revenait du massacre des rois. Et ce roi n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui Abraham rencontra-t-il? Maintenant, pensez, il n'avait ni père, il n'avait ni mère, il n'avait jamais eu un moment où il commença, et il n'y aura jamais un moment où il terminera. Ainsi, ce même roi de Salem doit être vivant aujourd'hui. Le voyez-vous? C'était cette théophanie qui était le Fils de Dieu. Qu'était Salem? Cette Jérusalem qui est au-dessus. Cet Abraham étant béni avec ce feu l'encerclant, essayant de trouver une cité dont le constructeur et l'architecte étaient Dieu. Il errait partout, vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénué de tout, errant et à la recherche d'une cité dont le constructeur et l'architecte étaient Dieu. Et il rencontra le roi de Salem qui descendait et lui paya la dîme de tout le butin. Amen! Nous l'obtenons ici. Oh, frère Graham, c'était lui! C'était lui! Abraham le vit à nouveau. Un jour, alors qu'il était assis dans la tente, il regarda et il vit 3 hommes venir de là. Vous savez, il y a quelque chose concernant un chrétien, c'est qu'il connaît l'esprit quand il le voit. Il le connaît. Il y a quelque chose de spirituel en cela. Les choses spirituelles sont discernées spirituellement. Vous savez, vous, oui, il peut juste dire cela. S'il est réellement né, mes brebis connaissent ma voix. Et il sut qu'il y avait quelque chose. Il sortit en courant et dit, « Entre, mon Seigneur, assieds-toi, arrête-toi un petit peu. Je prendrai un morceau de pain et je le placerai dans ta main. Je te laverai les pieds. Repose-toi et tu continueras ton voyage, car tu es venu pour me visiter. » Et là-haut, dans le pays aride, prenant le dur chemin, le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. Pendant que Lot vivait parmi les riches, son neveu Laban bas, mais il vivait dans le péché. C'est ce qui arrive. Plus on est riche, plus cela produit le péché. Ainsi, Abraham les fit entrer. Il prit un peu d'eau, il lava leurs pieds, il courut chercher un veau, il prit un veau gras dans le pâturage et le tua et le donna à ses serviteurs pour l'apprêter. Et il dit, « Sarah, pétris de la farine. » Vous savez ce que c'est que pétrir, cela signifie, vous savez, maman utilisait une vieille sorte de spatule qu'elle avait dans le tonneau de farine. En avez-vous jamais vu un, avec un tamis? Et il y avait une spatule là-dedans pour ratisser la farine. Et c'était lourd comme cela. Et il la raclait au travers comme cela. J'ai vu maman faire cela bien des fois avec une spatule et avoir une petite chose ronde sur laquelle il y avait un petit grillage métallique. Elle prenait cette farine, elle la tamisait comme ça, vous savez, la tapotait en arrière, en avant comme cela. Et alors, elle prenait la spatule et raclait autour comme cela pour la faire descendre. Et quand nous l'avions fait descendre et que nous obtenions notre droit au vieux moulin à eau, et ces grandes vieilles, vous savez, lourdes, cela fait du réel pain de blé. Vous pouviez voir de grosses bûches tout le jour là. Aussi alors, il dit, pétris un peu de farine en vitesse et fais quelques gâteaux directement ici sur la terre, très vite. Et ils ont trait la vache, ils ont obtenu un peu de lait, ils le battaient, ils obtenaient un peu de beurre, et alors ils venaient, ils tuaient le veau, et ils avaient ainsi quelques viandes, et ils feraient frire la viande. Ils prenaient le beurre laitier, le pain de blé, et ils prenaient un peu de beurre pour mettre sur le gâteau chaud. Ah, c'était réellement bon. Et ils l'étendaient partout sur cela. Et il le prit et s'assit avec ses trois hommes. Et pendant qu'ils mangeaient, ils gardaient leur regard en direction de Sodome. Et après un petit moment, ils se levèrent et ils marchèrent en s'éloignant. Et il dit, Abraham dit, tu ne me cacheras pas cela. Je ne peux pas te cacher ce que je vais faire. Je descends là-bas. Les péchés de Sodome sont venus jusque dans mon oreille. Qui était l'homme? De la poussière sur tous ses vêtements, s'asseyant là, mangeant la chair d'un veau et buvant du lait de vache, et mangeant quelques pains de blé et un peu de beurre. Qui est cet étrange compagnon? Trois étaient assis là, de la poussière sur tous leurs vêtements. Oh oui, nous venons d'un pays lointain. Oui, très éloigné. Et il dit, bien, qui était-il? Et il dit, je ne peux cacher cela, Abraham, voyant qu'il est l'héritier de la terre. Amen! Je révèle mes secrets, en d'autres termes, à ceux qui sont les héritiers de la terre. C'est où l'Église devrait être aujourd'hui? C'est vrai! Obtenir les secrets de Dieu et savoir comment se conduire, et agir, et que faire, et comment marcher, et comment vivre. Nous sommes les héritiers de la terre, c'est vrai! Il vous révèle cela parce qu'il ne peut rien dissimuler. C'est pourquoi nous attendons que ces choses arrivent. Et le monde dit, « Ah, c'est un groupe de fanatiques !» Mais laissez-les dire, les héritiers de la terre connaissent ces choses. Espace blanc sur la bande, note de l'éditeur. Ils seront appelés les enfants de Dieu. Bienheureux sont ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Il leur fait connaître ses secrets. Il leur révèle, leur montrant que faire et comment vivre, oubliant les choses du monde, marchant pieusement et vivement pieusement dans ce présent monde, marchant tout le long avec lui. Laissez le monde dire ce qu'ils veulent. Ainsi il dit, je ne peux cacher ce secret à Abraham, à cause, voyant qu'il est l'héritier de la terre. Mais il dit, je descends pour détruire Sodome. Je descends. Qu'allez-vous faire, monsieur? D'où êtes-vous? Et qu'en est-il au sujet de tout cela? Venu pour le dévoiler, il dit, et autre chose, Abraham, tu as attendu 25 ans pour cette promesse que je t'ai donnée. Tu t'es procuré tout le ciel de lit et les épingles et chaque chose pour ce bébé il y a 25 ans. Et tu es encore en train d'attendre sur moi. Maintenant, je suis venu te visiter juste au sujet du temps de vie. Selon le temps de vie, le mois prochain, je serai avec toi. Et Sarah, derrière dans la tente, et cet homme, avec son dos tourné à la tente, parlant à Abraham comme cela. Et Sarah rit. Frère Branham illustre par une mimique du visage, note de l'éditeur. Il dit, qu'est-ce qui a fait rire Sarah? Comment savait-il cela? C'était tout à fait une télépathie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait rire Sarah? Sarah dit, oh, je n'ai jamais ri. Il dit, oh oui, tu l'as fait. Elle était effrayée, elle tremblait. Qui était celui qui savait ce qu'elle était en train de faire là derrière dans la tente? C'est ce même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Le même. Il sait tout à ce sujet, voyez-vous? Il le révèle juste comme vous en avez besoin, voyez-vous? De quoi as-tu ri? Voyez-vous? Son dos tourné à cela. La Bible déclare, et son dos était tourné à la tente. Mais il savait cela, ce qu'elle était en train de faire là derrière. Vous voyez, ainsi il dit, je suis venu vous visiter. Qui était cet étrange compagnon? Vous savez ce qui arriva? Il sortit directement de là et il disparut. Et la Bible dit que c'était le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, cette grande fontaine, cette théophanie, ce Logos. Un certain prédicateur m'a dit il y a quelque temps, Frère Branham, vous ne pensez quand même pas que c'était Dieu? Je lui dis, la Bible dit c'était Dieu, Elohim, c'est-à-dire qu'il était le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, c'est vrai, celui qui donne la force, celui qui satisfait. Amen. Oh, je me sens religieux, pensez à cela. Il est ici maintenant, je vais vous montrer qui est ici, et alors vous verrez qui est le Fils. C'était Jésus, avant qu'il ne possède le nom humain, Jésus. Se tenant là, à la fontaine, ce jour, et ils ont tous bu. Ayant les eaux qui étaient dans le désert, et des choses comme cela, il dit, ils ont mangé la manne. Quelqu'un dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Il dit, et ils sont tous morts. Il dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel venant de Dieu. Celui qui mange ce pain ne mourra jamais. On lui dit, viens, nos pères ont bu à un esprit, à un rocher spirituel qui était dans le désert et qui les suivait. Il dit, je suis ce rocher, gloire. Saint Jean, 6e chapitre. Et lui dire, quoi? Oui, c'est vrai. Quelqu'un lui dit, tu n'as même pas 50 ans. Évidemment, son œuvre le faisait paraître un peu plus vieux, mais il avait seulement 30 ans. Tu es un homme qui n'a même pas dépassé 50 ans. Et tu dis avoir vu Abraham qui est mort il y a 800 ou 900 ans? Nous savons maintenant que tu es un démon. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est là. Qui était le je suis? Un nom perpétuel pour toutes les générations. C'était cette colonne de feu dans le buisson ardent. Je suis celui qui suis. Il était là. Cette théophanie faite ici. Appelé le Fils de Dieu. Le je suis. Jéhovah. Thomas dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous satisfera. Il dit, j'ai été si longtemps avec vous, et vous ne m'avez pas connu. Quand vous voyez le Père. Et pourquoi dites-vous, montre-nous, toi le Père? Moi et le Père, nous sommes un. Mon Père demeure en moi. Je suis juste un tabernacle appelé le Fils. Le Père demeure en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi. Il fait les œuvres, pas moi. Maintenant, retournons à cela de nouveau. Moïse le vit, son dos, et dit, cela ressemble au dos d'un homme, le Logos qui vint de Dieu. Alors, qu'est-il arrivé? C'était Dieu, et la raison pour laquelle il a dû devenir chair, étant le Logos. Qu'est-il arrivé à cela? 5 minutes avant cela, il était le Logos. Mais que fit-il? Il passa juste. Maintenant, nos corps sont faits de 16 éléments différents du monde. Nous savons cela. C'est fait de potasse et d'un peu de calcium et de pétrole et de lumière cosmique et d'atomes, etc. tout cela lié ensemble pour faire ce corps qui vient de la poussière de la terre. Vous mangez de la nourriture. Vous mangez la nourriture qui, cela se transforme en de la poussière, et cela vient de la poussière, et cela va toujours ainsi. Votre chair, aussi longtemps que c'est votre chair, n'est pas différente de celle d'un cheval, ou d'une vache, ou de quoi que ce soit d'autre. C'est encore juste de la chair. Et garçon, vous glorifiez la chair. Mais cet esprit a une âme en lui, mon frère. C'est vrai. Mais votre chair est juste de la poussière de la terre, comme l'animal. Votre chair n'est rien de plus qu'un animal. Et si vous convoitez la chair et la chose que vous voyez, convoitez les femmes, convoitez toutes ces différentes choses, c'est encore animal. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne devriez pas faire cela. L'Esprit de Dieu veut vous conduire et vous placer sur un plan plus haut que cela. C'est exactement vrai. Et ainsi, cette grande théophanie se trouvant là, ce grand Dieu, Jéhovah, vous savez ce qu'il dit? Il passa juste là-dessus. Il prit une poignée d'atomes, il prit une petite lumière, il la répandit dedans comme ceci, et vint. Abraham souffle, note de l'éditeur. Un corps! Et entra directement cela, et c'est tout. Il dit, viens ici, Gabriel, ce grand archange. Il vint. Abraham souffle, note de l'éditeur. Entre en cela! Viens ici, Michael, l'ange qui se trouve à sa droite. Abraham souffle, note de l'éditeur. Toi, entre en cela. Dieu et deux anges marchèrent ici-bas dans la chair humaine. Ils burent le lait d'une vache, mangèrent le beurre qui vient du lait, et mangèrent quelques gâteaux, et mangèrent la viande de veau. Deux anges et Dieu, ainsi dit la Bible. C'était ce Melchisédek qu'Abraham rencontra alors qu'il revenait du massacre des rois. C'était le Fils de Dieu. Allons plus loin, dans les Hébreux, au 7e chapitre, où il est dit, « Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Là il est, il fit toutes choses par lui, et il va au travers de tout cela, et il transforma directement cette poussière à nouveau en poussière, et il se tint directement à nouveau dans la gloire. Et les anges, dès qu'ils eurent délivré Lot et Madame Lot, et regardant en arrière, il dit, il leur avait dit de ne pas le faire. Et il se tint à nouveau directement dans la présence de Dieu. Oh, quelle grande espérance nous avons dans cette grande foi que nous servons ce soir. Le Dieu vivant, Jéhovah, la colonne de feu est avec nous. Il se montre lui-même en puissance et œuvre et gloire. Les laissant prendre une photo de lui, le même Jéhovah, le Fils de Dieu qui vint de Dieu, retourna à Dieu et habite dans son Église à jamais. Là il est, il a nos noms sur son livre, ayant prêté serment par lui-même, car il n'y a personne de plus grand par lequel il puisse prêter serment qu'il nous ressuscitera au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui-là même qui peut se lever, saisir une poignée de calcium et de potasse, allez, le frère Branham souffle, nom de l'éditeur, et vous êtes à nouveau là, peu m'importe que mes épaules deviennent voûtées ou à quel âge j'arrive. Certainement pas, pas un brin d'ennui. Frère Mike, l'heure de ces jours, béni soit votre cœur, frère, quand cette grande trompette de viendra et ce un son et ce Joseph se tiendra là. Alléluia! Il dira, enfant, frère Branham souffle, note de l'éditeur, vous serez là, fais à sa ressemblance, jeune pour toujours. La vieillesse ne sera plus, la maladie, les troubles et les afflictions auront cessé. Gloire soit au Dieu vivant. C'est celui par qui il nous parle aujourd'hui, son Fils. À plusieurs reprises et de diverses manières, il parla au travers des prophètes, mais dans le dernier jour, au travers de son Fils, Jésus-Christ. Il parle au cœur de chaque homme qu'il a appelé. Si vous n'avez jamais ressenti son appel et que vous l'entendiez frapper à votre cœur, ne le rejetez pas, s'il vous plaît. Prions. Père céleste, ce soir, comme nous sommes heureux d'apprendre au début de cette épître aux Hébreux, comment Paul en vient directement à nouveau aux évangiles. Il n'a pas voulu se baser juste sur un oui-dire ou sur une expérience. Il désirait que nous sachions ce qu'était la vérité. Et il retourna directement aux évangiles. Et il, en arrière dans l'Ancien Testament, l'évangile qui leur était prêché. Et il le reçut, là, au travers de l'Ancien Testament, toutes les ombres et les types. C'est pourquoi nous avons pris ce grand livre des Hébreux ce soir, et nous le voyons, Seigneur, et nous l'aimons. Et au travers des âges, il a été brûlé, il a été éparpillé, on a essayé de le faire disparaître, mais elle a tout surmonté, demeurant la même. Car comme tu as dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors le sceptique dira, alors vous dites que Paul a écrit cela. Pas Paul, mais Dieu qui était en Paul. Cet être créateur et qui était à l'intérieur de Paul. Exactement comme il en était pour David quand il dit, je ne laisserai pas mon sein voir la corruption, ni ne laisserai son âme dans le séjour des morts. Et le Fils de Dieu prit ses paroles du prophète et s'en alla directement au sein de l'enfer. Et il dit, détruisez ce tabernacle, en 3 jours je le relèverai. Et il le fit, parce que la parole de Dieu ne peut pas faillir dans un iota. Elle ne peut pas faillir. Comme nous remercions Dieu pour ce grand Ourim Toumim, et de savoir que nos expériences ce soir, Seigneur, étincelles dans cette Bible ici, nous sommes nés de nouveau, ayant le Saint-Esprit. Dieu bien-aimé, s'il y a ici un homme ou une femme ce soir, un garçon ou une fille qui n'a jamais été témoin, combien se lèveront-ils s'il n'y a pas de vie en eux? Ou ils disent, j'ai la vie, mais la Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Vous dites que vous avez la vie, mais vous êtes mort. Vous déclarez, dit la Bible, que vous avez la vie, mais vous êtes mort. Tu dis que tu es riche et que tu n'as besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, nu et aveugle. Et tu ne le sais pas. Et c'est la condition des églises ce soir, Seigneur. Comme elles manquent ces grandes choses de valeur. De savoir que le grand Dieu, Jéhovah, qui peut seulement produire part, il dit, apporte-moi ces petits poissons. Il a dû prendre des poissons pour faire quelque chose avec cela, montrant que la résurrection doit être quelque chose qui a rapport avec autre chose. Il ne fit pas seulement des poissons, mais il fit des poissons cuits. Il cuit du pain et il en nourrit 5 000 avec 5 petits poissons, petit pain et 2 poissons. Ô Seigneur, c'était entre ses mains et il était le Créateur, mais il devait avoir quelque chose en ses mains. Dieu, puissions-nous ce soir nous placer nous-mêmes dans ses mains et dire, ô Dieu, prends-moi tel que je suis. Et quand la fin de ma vie arrivera, laisse-moi aller avec cette espérance qui est en moi, sachant que je suis né de nouveau, et que ton esprit témoigne avec moi, et témoigne à mon esprit que je suis ton fils ou ta fille. Et au dernier jour, tu les ressusciteras. Exauce le Père. Et alors que nous avons nos têtes baissées, y a-t-il ici quelqu'un qui voudrait lever sa main et dire, souvenez-vous de moi dans la prière, frère Branham, je désire être connu de Dieu. Quand, avant que je quitte cette terre, qu'il me connaisse assez pour pouvoir appeler mon nom. Alors je répondrai. Le Seigneur te bénisse, fils. Dieu vous bénisse. Et vous, madame. Quelqu'un d'autre? Levez juste votre main. Dites, priez pour moi, frère Branham. C'est ce que nous ferons. Dieu vous bénisse, jeune dame. C'est bon. Maintenant, pendant que nos têtes sont baissées et que nous prions, je veux chanter un verset de ce cantique. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde qui se corrompent si rapidement. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Elles ne passeront jamais. Tenez la main immuable de Dieu. Tenez la main immuable de Dieu. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Tenez la main immuable de Dieu. pendant qu'il est en train de jouer maintenant, et que votre tête est baissée, voulez-vous juste lever votre main et dire « Oui, Seigneur, me voici ». Qu'est-ce que cela fera? Cela montrera que votre esprit en vous prend une décision. « Je veux ta main, Seigneur. » Dieu te bénisse, petite fillette. Je lève ma main. Dieu te bénisse, petite fille. Là au fond, c'est bien, mon petit chou. Dieu, tu sais, est heureux de voir que tu as fait cela. N'empêchez point les petits-enfants de venir à moi. Je veux, Dieu, que tu tiennes ma main. Et ce jour-là, je veux être dans tes mains. Alors, quand tu appelleras, je viendrai. Voyez-vous, c'est comme il en a été pour Lazare. Dieu vous bénisse, sœur. Quand notre voyage est terminé, si vous avez été vrai envers Dieu, votre foyer beau et lumineux dans la gloire, votre âme enchantée verra. Que ferez-vous maintenant alors? Tenez la main immuable de Dieu. Tenez la main immuable de Dieu. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Tenez la main immuable de Dieu. Père céleste, plusieurs mains se sont levées dans cette petite réunion ce soir, montrant qu'ils veulent saisir ce soir ton immuable et éternelle main. Sachant ce qui t'est confié, tu as dit, « Je, tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et aucun d'entre eux ne sera perdu, et je les ressusciterai au dernier jour. Ils ne peuvent jamais périr, jamais venir en jugement, mais à la vie éternelle. » Éternel, il y a une seule vie éternelle, elle vient seulement de Dieu, c'est Dieu, et nous devenons une partie de Dieu quand nous sommes fils et filles de Dieu. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous pensons comme Dieu, nous pensons à la justice et à la sainteté, et nous essayons de vivre pour lui plaire. Accorde, Seigneur, que ce type de vie pénètre chaque personne qui a levé sa main. Et ceux qui auraient dû lever leurs mains ne l'ont pas fait, je prie que tu sois avec eux. Exauce-le, Père, et quand le voyage est terminé, la vie finie, puissions-nous pénétrer dans la paix avec lui ce jour-là, en ce lieu où nous ne serons jamais vieux, jamais malades, et où il n'y aura jamais plus de troubles. Jusqu'à ce moment, garde-nous pleins de joie et heureux, le louant, car nous le demandons en son nom. Amen. Vous tous croyants, maintenant, juste levez vos mains et chantons ce chœur. Tenez la main immuable de Dieu. Tenez la main immuable de Dieu. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Bâtissez. Tenez la main immuable de Dieu. Maintenant, murmurons-le. Pendant que vous faites cela, votre voisin, dites-lui, Dieu vous bénisse, voisin. Serrez la main de la personne assise au plus près de vous. Dieu vous bénisse. Des deux côtés maintenant, des deux côtés, serrez-vous les mains. Dieu vous bénisse, voisin. Dieu soit avec vous. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Quand ce voyage est terminé, cela arrivera l'un de ces jours. Si nous avons été vrais envers Dieu, oh, nous verrons, frère Seward, là, votre foyer lumineux est lumineux dans la gloire. Votre âme enchantée verra. Tenez la main immuable de Dieu. J'aime cette adoration après le message. Tenez la main immuable de Dieu. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Tenez la main immuable de Dieu. Le temps est composé de passages rapides. L'impassible néant de la terre demeure. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Venez, regardons à lui, celui invisible qui est au milieu de nous maintenant, et adorons-le. Juste maintenant, alors que nous chantons. Tenez la main immuable de Dieu. Tenez la main immuable de Dieu. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Tenez la main immuable de Dieu. Paix, paix, merveilleuse paix. Adorons-le juste maintenant. Descendons. Le message est terminé. Adorons. Nettoyons notre esprit pour toujours. Je prie. Dans les insondables vagues de l'amour. Juste baigner en lui. Paix, paix, merveilleuse paix. Descendons. Cette grande fontaine qui est ici ouverte. D'en haut, nettoyant notre esprit pour toujours, je prie. Dans les insondables vagues de l'amour. Oh, ça ne fait-il pas quelque chose? Paix, merveilleuse paix. Descendant de notre Père d'en haut. Nettoyons notre esprit pour toujours, je prie. Dans les insondables vagues de l'amour. N'y a-t-il pas quelque chose au sujet d'être juste, riche et doux et... Je me demande s'il y a ici une personne malade qui désirait être ointe et que l'on prie pour vous. S'il y en a une ici, que l'on trouve où elle est. C'est cette dame dans la chaise roulante là, ne la déplacez pas, je viendrai, je prierai pour elle. Elle ne peut pas sortir de sa chaise. Quelqu'un d'autre? Oh, n'aimez-vous pas cette partie du service? Combien ressent juste de savoir que la présence de Dieu est ici? C'est de quoi je parle? Même, le ressentez-vous comme cela? Combien se sent-il? Juste comme s'il pouvait pousser des cris. Maintenant, montrez-le. Juste sentir comme quelque chose que vous pourriez juste vouloir pousser des cris. Voyez-vous? C'est la paix, paix. Merveilleuse paix. Descendant du Père d'en haut. Nettoyons notre esprit pour toujours, je prie. Dans les insondables vagues de l'amour. Pendant que nous sommes dans l'adoration, nous allons oindre les malades maintenant et prier pour eux. Voulez-vous venir directement par ici, madame? Qu'est-ce que cela signifie? La prière de la foi sauvera le malade. Que chacun murmure ce cantique.